Allez, 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 allez.
C'est du brutal.
Là.
La cuisine, hein, c'est le seul art qui ne demande pas. Vous jouerez sur la peinture, sur la musique, mais sur la bouffe, pas d'histoire, c'est bon ou c'est mauvais.
Bonjour à tous et toutes, c'est De Bouche à Oreille en direct et en podcast sur Studio Zef. Une émission dédiée à la popote, la boustifaille, la mangeaille, la bouffe, mais aussi le vin, la bière, les jus en tout genre. Bref, tout ce qui fait vibrer n'importe quel humain qui se respecte, et particulièrement le français, j'ai nommé la gastronomie. Mais dites donc, décembre a déjà pointé le bout de son nez, enfin il a carrément mis le pied dans la porte même pour s'incruster. Décembre, ça sent le sapin, oui, facile. Enfin, ça sent surtout les loupiottes qu'on va y accrocher. À quelques semaines des sacro-saintes fêtes de fin d'année, vous êtes prêts, vous, les cadeaux? Ah non, c'est vrai, j'avais oublié, on est en décroissance. Pas de cadeaux pour pas faire marcher le grand capital et son adjoint en chef Amazon. Ah, quelques guirlandes en papier crépon quand même. Ah non, ah oui, c'est vrai, ça fait des déchets, c'est pas environnementalement correct. Dis donc, à ce rythme-là, ça devient pas vraiment fun, les fêtes de fin d'année. Rassurez-moi, on n'est pas obligé d'éliminer toutes les douceurs sucrées quand même. Ah bah si, parce que fait pas bon être gros désormais, faut avoir la ligne, messieurs, dames. Et puis le diabète, oh là là, le diabète, on n'en parle jamais assez. Et bah vous savez quoi, le diabète et la ligne, à deux bouches à oreille, on s'en fout. Alors j'espère bien que vous avez ressorti vos meilleures recettes de truffes au chocolat et de bûches en tout genre, parce que si vous ne vous les autorisez pas maintenant, vous ne vous les autoriserez jamais. Et parmi les douceurs à venir, il ne faudrait pas oublier le pain d'épices, version cake familial ou petit bonshomme individuel. Et qui dit pain d'épices dit miel. Et là, pas de polémique, c'est que du bon sucre. Moi, je vous parle de recettes sucrées, mais bon, je crois savoir que le canard au miel, c'est pas mal non plus. Alors certes, les abeilles se sont planquées pour un bout de temps bien au chaud. Pour autant, c'est bien de miel et d'apiculture dont il va être question aujourd'hui, ici même, avec David Delaporte, apiculteur à Rilly-sur-Loire. Bonjour David et merci de venir jusqu'à nous.
Bonsoir.
Alors avant d'attaquer le sujet du jour, laissez-moi vous présenter mes fidèles camarades attablés. Yann, notre cuisinier brasseur râleur. Salut Yann.
Salut Alice.
Et je crois savoir que tu ne vas pas pousser un coup de gueule aujourd'hui. Que se passe-t-il?
C'est l'approche des fêtes qui me rend un peu plus calme. Et donc,
c'est l'esprit de Noël qui t'a envahi déjà?
Absolument.
Parfait.
Voilà.
Véro, est-ce que l'esprit de Noël t'a envahi, notre spécialiste des fousitus et de la bonne cuisine facile et pas chère?
À fond. Tu sais bien que j'adore ça, moi, Noël.
Tout à fait.
C'est-à-dire que je vais hiberner pendant 15 jours.
Mais on est content de te voir avant la phase d'hibernation,
oui,
c'est gentil de sortir. Et puis Marie, notre viticultrice, écrivaine, auteure. Salut Marie.
Salut, salut.
Enfin, à la technique et à la programmation musicale, Jérémy, sans qui, justement, cette programmation musicale n'aurait pas la même saveur. Salut Jérémy. Alors avant d'attaquer notre sujet, comme d'habitude, on va rester fidèle à notre début d'émission avec les bons plans. Chers attablés, qu'avez-vous ramené dans votre panier? C'est qui commence? Et je vois Yann se précipiter sur le micro.
Je veux bien pour changer.
Ah, vas-y, Marie.
Ah, super. Bien, moi, mon bon plan, c'est les portes ouvertes d'Hervé Finmat le week-end prochain, du 14 au 15 décembre. C'est de 11h à 18h. Toutes les infos sont sur Internet. Vous allez pouvoir
alors,
boire.
Juste Hervé Finmat, c'est un
vigneron.
Voilà.
Un excellent vigneron du coin et qui organise ses portes ouvertes tous les ans à peu près à cette époque de l'année. Donc c'est l'occasion aussi pour lui non seulement de présenter toutes ses cuvées et aussi d'inviter ses amis vignerons qui sont quand même de grands vignerons de partout en fait. Il y en a de Chablis, une très très grande référence, c'est Alice et Olivier Demort de Chablis par exemple. Dans le Beaujolais, il y a les Descombes. Il y en a de partout et c'est vraiment une occasion de déguster plein d'excellents vins. Et puis il y a aussi d'autres amis, enfin des amis qui ne sont pas vignerons, qui sont invités, et notamment donc la Fumaison de Groix, si vous voulez un peu manger des poissons fumés qui ne sont des poissons de mer. Et puis il y a des huîtres aussi, il y a des agrumes, de l'huile d'olive, enfin voilà quoi, tout y est, c'est le paradis ce week-end.
Ça va être un régal. À qui le tour?
Allez, moi j'ai une petite recette que j'ai découverte il n'y a pas là, très longtemps.
Sur marmiton.com.
Sur marmiton.com, le site préféré de Yann.
Je vais partir dans 2 minutes.
Donc ça s'appelle le ceviche. Alors le ceviche, je crois qu'on dit
viche,
comme ça, viche. Ouais, non, parce qu'en apparemment, en espagnol, les V c'est un B. Peu B. Ouais. Hein. Bon, enfin bref. Apparemment c'est le plat national péruvien. Alors ils en sont tellement fiers que. le 28 juin, eh bien, ils fêtent ce plat-là.
La fête du ceviche.
Ouais, ouais, la fête du ceviche. C'est absolument délicieux. Donc, vite fait, du filet de poisson à chair blanche très, très frais, mariné dans du jus de citron vert, un peu de coriandre, de l'oignon rouge. Et puis, on peut agrémenter. Alors, moi, j'ai testé la variante. D'habitude, je crois que c'est avec de la salade et du maïs. Et moi, j'ai goûté avec de la mangue et de l'avocat. Des morceaux de mangue et de l'avocat. Et franchement, arrêtez la dinde au marron, quoi. Faites un ceviche, quoi.
T'as tout à fait raison. Je fais exactement cette recette-là aussi, avec des dés de mangue et d'avocat.
Aussi.
Ouais, c'est fantastique.
C'est extraordinaire. Vraiment.
On peut mélanger les poissons aussi, si on peut s'amuser à mélanger les poissons.
Oui, et puis rajouter de la noix de cajou aussi.
Ah, c'est vrai?
Ah, c'est bien, ça fait un côté
extraordinaire. Ouais, vraiment. Hein.
Ok, vive le ceviche à Noël.
Ouais, c'est vrai. C'est
en plat principal ou en entrée?
En entrée?
Ouais. Et toi, c'est en plat principal plutôt?
Oui, c'est en plat principal, ouais.
Un plat principal, ouais. Plat principal l'été, sous le boulot, dans le jardin. Je dois toujours vous inviter pour un steak tartare maison, en fait.
Oui, bon, Yann, ton coup de cœur.
Ouais. Dans le jardin. Mon coup de cœur, moi, ce sont le Noël aux ateliers des greniers de Vineuil, qui se déroule tous les week-ends de décembre, à partir du week-end dernier, donc le week-end prochain et le week-end d'après. Tous les samedis et dimanches, c'est ouvert de 10h à 19h. Il y a des artisans et des producteurs locaux. On vous aura le vin de Cyril Sevin.
Ah oui, ça va.
J'y vendrai ma bière, voilà, si vous êtes intéressé. Et puis,
il y a des autographes.
Non, c'est ma femme qui va signer les autographes. D'autres exposants.
Il y a des choses à manger aussi.
Il y a des choses à manger aussi. Je sais pas quoi, mais moi j'ai vu des trucs très très sympas là-bas quand je suis allé les voir. C'est très gentil, c'est très vraiment très sympa comme endroit en plus. C'est situé donc à Vineuil, 8 rue Gapou. Et vous avez tout le programme et d'autres informations sur leur site internet lesgreniersdevineuil.com. Pardon.
C'est un beau bâti, c'est une très belle maison.
C'est une très belle maison.
C'est magnifique.
C'est idéal pour Noël. Hein. Ouais. Je me suis cru
sur
en
la route de
Scandinavie. C'est très 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 sympa. Donc voilà, courez-y.
Eh bien, de toute façon, on mettra toutes les références comme d'habitude sur la page de Bouche à Oreille sur Studio Zef. Moi, j'ai juste un bon plan, c'est un succulent gâteau à l'orange que j'ai dégusté, et c'est d'époque, au Château Gaillard à Amboise.
Il y avait du beurre?
Bah non, sinon j'en aurais pas
mangé.
Mais
il y avait de la farine.
Je crois qu'il y avait du beurre. Il était vraiment fondant. Et alors, en fait, ce château, la Château Gaillard, je ne sais pas si vous connaissiez. En fait, c'est une ruine qui a été redécouverte, rachetée par un investisseur qui l'a donc remis en état entre 2011 et 2016. Et il a rouvert au public en 2016. Donc, c'est vraiment juste à côté du Clos Lucé. Et il se trouve qu'il a toujours eu pour spécialité la culture d'agrumes sous serre. Donc, il est impossible de terminer la visite sans la petite dégustation du gâteau à l'orange maison. Et moi, j'ai eu la chance de le faire par une belle journée ensoleillée d'automne sur le perron face au parc. C'était juste magnifique. Et le château est ouvert pour les fêtes de Noël. Enfin, en fait, il est ouvert toute l'année. Donc, ça vaut vraiment le coup. C'est un super château et ça me fera une transition toute trouvée avec David.
De bouche à oreille,
j'ai mal.
On va peut-être passer à la suite, Michel.
Ben, j'ai mal.
Eh bien, 6h32, c'est l'heure de la météo.
J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal.
Donc on parle miel. On parle miel aujourd'hui et je disais que j'avais une formidable transition parce qu'il se trouve, David, que... Vous êtes apiculteur depuis quelques années à Rilly, après une carrière toujours un peu en cours de photojournaliste, et une passion pour les abeilles depuis une vingtaine d'années, enfin, peut-être même avant. Comment on devient passionné par les abeilles?
Sans doute avant, oui. Alors j'ai eu une expérience dans mon enfance d'apiculture, et j'y suis venu parce que, pour des raisons professionnelles, j'ai dû m'exiler à Paris pour travailler. Donc je suis originaire de la région. Je suis parti vivre à Paris et dès les premières années de vie à Paris, j'ai ressenti un manque de nature. Je me sentais un peu déconnecté et je me suis dit que l'apiculture serait certainement idéale pour me reconnecter, pour me reconnecter à la nature. Et donc j'ai fait une formation à Paris, à la Société Centrale d'Apiculture. Au Rucher du Luxembourg, qui est l'une des plus anciennes écoles d'apiculture. Elle a été fondée en, en 1854 par Henri Hamet pour démocratiser l'apiculture sur cadre mobile.
Sur cadre mobile, c'est-à-dire ?
C'est ça, c'est-à-dire que lorsque l'on récolte le miel actuellement, on le récolte sur des cadres qu'on extrait d'un étage qu'on met au-dessus
des ruches,
de la ruche. Donc c'est moins invasif, on ne perturbe pas la colonie, on la perturbe moins en tout cas. Et voilà, c'était pour démocratiser ce mode d'apiculture que le rucher a été fondé et depuis c'est resté une école, l'apiculture.
D'accord. Et donc vous, c'était voilà, observer les abeilles, j'allais dire cultiver les abeilles, on ne cultive pas, élever les abeilles.
On les élève, oui.
C'était une façon de, voilà, de retrouver du lien en pleine ville avec, avec la nature.
C'était ça. Donc j'y suis venu comme ça. Et ensuite, j'ai exploité des ruches dans le cadre d'une association à Paris. Donc c'était un terrain mis à disposition par la ville des Lilas, donc un proche couronne de Paris, enfin très proche de Paris.
Dans les 93, c'est ça?
C'est dans le 93, oui, à l'est de Paris. Et puis, quasiment dans le même temps, j'ai installé des ruches à Rilly-sur-Loire, près d'une ferme qui appartient à un ami. Enfin, sur les terres d'une ferme qui appartient à un ami, dans une zone de bocage. Et j'ai exploité une vingtaine de ruches pendant un certain temps. J'ai ensuite pris la décision de, avec ma compagne et ma famille, on a pris la décision de revenir s'installer dans la région. Et là, s'est posée tout de suite la question de la transition. Et aujourd'hui, je travaille à développer cette activité d'apiculture pour en faire une activité principale et vivre de ça.
Mmh. Alors, donc, vous êtes installé à Rilly-sur-Loire. Je disais qu'il y avait j'avais une transition toute faite parce que vos ruches, vous les installez aussi sur d'autres sites. Hein.
Oui. Alors, c'est vrai que je continue toujours à fonctionner en double activité. Même si je fais de moins en moins de photos, parce qu'il s'agissait de ça, enfin j'étais photojournaliste. Donc je fais de moins en moins de photos, mais j'en fais encore un petit peu. Il faut un certain temps pour en vivre, hein, de l'apiculture, il faut développer le cheptel, et puis c'est pas si facile dans le contexte actuel. J'avais donc assez peu de temps pour développer un réseau de commercialisation. Je suis de retour dans la région après 20 ans d'absence, donc j'ai pas énormément de contacts non plus. Donc j'ai exploité une vingtaine de ruches, j'avais du mal à écouler le miel, je donnais la grande majorité, enfin la majeure partie de ma production.
En effet.
Non, c'était pas encore le but, mais à partir du moment où j'ai décidé d'engager une démarche de professionnalisation, il a fallu trouver des solutions. Et j'ai proposé à des châteaux où... J'ai aussi proposé à de grands restaurants, de grands domaines hôteliers, d'installer des ruches, de les exploiter et de leur vendre la production de miel. Donc le miel est produit chez eux, ça a été une idée qui... L'idée a séduit un certain nombre de personnes et j'ai notamment installé des ruches effectivement au château Gaillard depuis cette année. Donc il y a 11 ruches d'installer au château Gaillard, ouais.
Donc vous en avez aussi au domaine des Hauts-de-Loire à Onzain,
oui.
Au château de Cheverny.
Au château d'Amboise.
Ah, au château d'Amboise, à Les Attes de Pont-le-Voix.
Oui.
D'accord.
Au château de Selles-sur-Cher, au château du Moulin, mais qui...
Oui.
Voilà.
J'ai appris que le château du Moulin, ma petite
sujet.
Perle, voilà, allait être vendue. Donc c'est une petite larme à l'œil. Et alors, ça consiste en quoi, être apiculteur?
Ça consiste à élever des abeilles, donc à produire du miel et prendre soin de ces abeilles. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'attache quasiment autant à... On s'évertue à maintenir nos abeilles en vie, autant qu'à se soucier de la production de miel.
Mm-hmm. Se soucier qu'elles restent en vie, c'est-à-dire être apiculteur, c'est autant participer à la sauvegarde du biotope, finalement, que de faire du miel aujourd'hui?
C'est vrai qu'on ne se place pas forcément en sauveur de la biodiversité, mais... aujourd'hui, effectivement, la préoccupation, les récoltes de miel, on s'en préoccupe bien sûr, c'est notre revenu, mais on passe autant de temps à se préoccuper de la santé des abeilles et du maintien, à maintenir le cheptel dans de bonnes conditions. Mais bon, voilà, ça reste avant tout la production de miel. On exploite des colonies là, dans un biotope qui est encore qui est encore praticable, disons, pour l'apiculture. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de problématiques qui se posent aujourd'hui quand il s'agit d'élever des abeilles.
Alors, on va y venir. Élever des abeilles, c'est donc, dans l'esprit de tout le monde, c'est ces fameuses boîtes blanches. Enfin, elles ne sont peut-être pas toutes blanches, mais...
On peut envisager toutes les couleurs.
Ah bon, elles peuvent être violettes, chouette. Comment ça se passe? Comment on démarre une activité? Est-ce que c'est quoi? C'est on fait venir deux abeilles qui se reproduisent? Comment on démarre?
Alors, il y a plein de formules. On peut commencer par acheter un grand nombre d'essaims et commencer tout de suite avec de nombreuses colonies. Pour ma part, j'ai commencé avec deux essaims, mm-hmm, que j'ai ensuite multipliés. D'abord, il faut faire en sorte que les essaims se développent. Ensuite, on procède à la multiplication. C'est-à-dire qu'on peut, sur la base d'une colonie, élever une nouvelle reine en extrayant des cadres de couvain, des larves, les introduire dans une ruche. Les abeilles qu'on introduit avec, les abeilles orphelines, vont réélever une nouvelle reine. Et sur ce principe, on peut démultiplier nos colonies.
Et alors, rappelez-nous, la reine, qu'est-ce qu'elle fait, la reine? On parle toujours de la reine. En effet, il y a une reine qu'il faut protéger, mais c'est pourquoi?
Une reine par ruche, effectivement, mais elle sort de la ruche pour ses vols de fécondation. À partir du moment où elle est fécondée, elle ne fait que pondre. Elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour quand il s'agit d'une reine productive et en bonne santé. Donc voilà, ça ne lui laisse pas le temps de faire autre chose.
Et ouais. Les autres travaillent pour elle?
Les autres travaillent pour elle, oui. Alors, elle est centrale dans la colonie. Elle travaille pour toute la colonie, effectivement. Elle renouvelle le cheptel. Les abeilles, les butineuses ne vivent pas très longtemps. Elles vivent une vingtaine de jours en dehors de la ruche au moment où les miellets sont les plus intenses. Donc au printemps, par exemple, en mai-juin, avril-mai-juin, elles travaillent énormément. Et pour le coup, elles vont mourir au bout d'une vingtaine de jours en dehors de la ruche.
Et alors du coup, elles sortent, elles vont butiner. En fait, c'est quoi leur job? Elles vont butiner, elles ramènent ce qu'il faut dans la ruche pour faire vivre la reine. Enfin, c'est quoi le cycle d'un essaim, le cycle des abeilles? La butineuse sort de la ruche?
Oui, tout à fait. Donc, en fait, dans une ruche, on a trois catégories d'individus. Donc, une reine, qui est la mère de toutes les abeilles de la ruche. Mmh. Les ouvrières, qui constituent la grande majorité des individus de la ruche, elles peuvent être jusqu'à 35, 40 000 dans une ruche. Et on a quelques milliers de mâles.
Ils font quoi, les mâles, en fait?
Alors, les mâles ne font rien d'autre que d'assurer la reproduction de la reine.
Ouais.
Donc, ils ne servent effectivement qu'à féconder la reine.
Ils vont butiner ou pas, également?
Non, pas du tout.
Non, du tout. Non. Donc, en fait, les travailleuses, ce sont que les femelles, hein, c'est bien ça?
C'est ça.
Ouais. Alors, et les mâles, en fait, ne servent qu'à la reproduction. Et à la fin de la saison, de l'été, on m'a dit que les mâles, en fait, ne sont plus autorisés à rentrer dans la ruche à partir de moment.
Tout à fait. Les abeilles les excluent ouais, à partir du moment où ils n'ont plus d'utilité.
D'accord.
Lorsque la saison de reproduction est terminée,
ouais,
les abeilles ne leur laissent plus accès à la ruche. Elles les chassent, éventuellement elles les tuent s'ils sont trop insistants.
Ouais. Donc, ouais. Ouais, d'accord.
Okay. Mais eux, effectivement, ils ne servent qu'à féconder les reines, mais alors ils sont, pour cette seule et unique raison, déjà très utiles. Ils sont essentiels. Et donc la période de reproduction commence en avril. Et les abeilles, les reines peuvent faire plusieurs voies de fécondation. Elles peuvent être fécondées par jusqu'à 16, on les appelle faux bourdons, ces mâles. Et passé la période de reproduction, ils sont chassés.
Et voilà. Non, à propos, je vais me glisser là. Et à propos de chasser, bon, le lien n'est pas si évident que ça. On va parler vin avec Marie.
Bonsoir, bonsoir. Donc ce soir, nous allons parler de vin. Et puis avant Noël, j'avais envie d'inviter de jeunes vignerons. Comme l'année dernière, il y avait Paul et Anouk, ou printemps dernier, je ne sais plus si c'était en 2018 ou 2019. Et bien là, ça va être un petit entretien pour faire un clin d'œil à des jeunes vignerons installés vraiment pas loin de Blois, à Montoux, sur Bièvre. Et donc, c'est Blandine Floch et Jérémy Choquet, qu'on appelle Choc Choc. Et donc, c'est Blandine qui va nous parler, parce que Choc Choc s'occupe de Léonie, qui est leur fruit de l'année, leur autre fruit de l'année. Bonsoir Blandine.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être venue. Et Blandine, d'ailleurs, il y a un petit clin d'œil, c'est aussi un autre, c'est qu'elle a participé à des émissions il y a quelques années. Bah, d'ailleurs, tu peux peut-être nous dire sur ce Joseph.
Il y a presque 10 ans maintenant, oui, c'était mon ancienne vie avant le vent, l'animation socioculturelle, voilà, avec les créateurs de la radio.
Ah, donc
oui.
Tu as connu Sanji, William.
Sanji, William, voilà, ouais.
D'accord.
Oui, il y a presque 10 ans, c'est au début de la radio.
Ah
quoi.
Oui, la radio a fêté ses 10 ans en 2018, donc en effet.
Donc il y a un lien entre la radio et le vin, encore une fois, qui est...
Évident.
Évident. Alors juste par rapport à votre installation, donc votre premier millésime date de l'année dernière, 2018. Et donc, justement, la question, c'est un peu que tu nous présentes votre domaine, votre activité, la création de...
Donc, nous, on est un tout petit domaine. Voilà, on est sur 2,5 hectares. Voilà, toute petite structure agricole. On travaille en bio. 2018, c'était notre premier millésime. Voilà. Parce que avant, Jérémy cultivait les vignes, mais vendait le raisin sur pied, puisqu'il ne se sentait pas prêt à vinifier. Et je lui ai proposé mes services, puisque maintenant, c'est moi qui vinifie les raisins.
Ouais.
Voilà. Donc, 2018, premier millésime, avec 3 cuvées, Pic ouais. Noir, 100% Pinot Noir, Sansonnet, 100% Gamay, et Last Co, 100% Co.
Oui, donc ça, c'était 2018. Oui. Et 2019...
Petite nouveauté, en 2019, on va proposer des blancs, puisqu'on a récupéré une parcelle de Sauvignon, et on aura 2 cuvées de blancs pour le millésime 2019.
Une un peu classique.
Oui, un pressurage direct, un vin blanc classique. Et puis une cuvée de macération. Voilà.
Parce qu'en fait, donc, toi, tu as quand même été ton parcours, avant de t'installer, tu as fait une formation, après donc, ton activité précédente, tu as fait une formation
au
lycée, Amboise.
Tout à fait.
Donc, à ce moment-là, tu étais stagiaire chez Thierry Puzda.
Tout à fait.
Qui t'a beaucoup influencé dans les méthodes de vinification, évidemment. Dans certaines envies aussi, peut-être, certains vins.
Au niveau des profils, clairement. En même temps, il faut dire que c'est une très, très bonne école. Donc,
oui. oui, on peut être influencé par ces vins.
Tout à fait. Tout à fait. Et puis la découverte aussi des vins géorgiens qu'il importe.
Oui.
Donc ça a été une très grande découverte, d'où aussi ce vin de macération.
Oui.
Puisqu'après avoir fait mes stages chez Thierry, je suis partie un petit peu en Géorgie faire les vendanges chez des amis vignerons géorgiens pour découvrir un peu les techniques de vinification ancestrale.
Oui, et donc là pour le moment tu vinifies un petit peu en amphore ou...
Pas pour le moment,
c'est
en projet.
D'accord, donc là pour le moment c'est des vinifications en cuve et en barrique.
En cuve et en barrique. Ouais. Tous les vins passent quelques mois sous bois. Voilà, on laisse passer l'hiver tranquillement sous bois et voilà, on les soutira au printemps.
D'accord. Et justement, là, pour le moment, en tant que jeune vinificatrice, jeune vigneronne, comment tu ressens cette activité ? Qu'est-ce qui te plaît ? Qu'est-ce que tu as envie d'affirmer ?
Ouh là là, je ne sais pas trop encore. L'idée, c'est de se faire plaisir avant tout. Voilà, essayer de conduire des méthodes de vinification pour avoir des résultats, des vins que j'aime boire, tout simplement. Voilà, après...
Et vous mettez en valeur un terroir, puisque vous cultivez vos propres vignes que vous vinifiez.
Tout à fait.
Et puis ensuite, il y a aussi l'idée, toi, de développer une partie un peu négoce.
Voilà, c'est un projet, tout à fait, puisque depuis qu'on est installé, on subit le gel. Voilà. Donc là, il faudrait faire face un petit peu à ces années un peu problématiques, puisque ça arrive là tous les ans, c'est assez récurrent. Donc l'idée, c'était de pouvoir acheter un petit peu de raisin pour compléter un peu notre activité. Quoi.
Oui, pouvoir la pérenniser, en tout cas vivre... Vu que vous êtes deux, un couple, une famille sur le domaine, pour pouvoir vivre Mais c'est une manière de, d'assurer un minimum, un revenu. Quoi.
C'est ça, exactement.
Et donc, où est-ce qu'on peut goûter vos vins dans le coin, puisque vous êtes bien... Toi, tu as même travaillé au 400 coups, d'ailleurs, notamment.
Oui, oui.
J'allais dire, vous êtes bien ancré dans le coin et dans différents endroits.
Tout à fait. Donc, les vins, on peut les retrouver, évidemment, au 400 coups, au restaurant L'Herbe Rouge, à Valère aussi.
Ouais. Le 400 coups, il faudrait juste rappeler que c'est un bar à vin 100% nature, rue Saint-Lubin à Blois.
Tout à fait. Et puis un restaurant qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, Anaheim aussi, voilà.
On en a parlé en coup de cœur dans l'émission.
Donc super resto.
Une belle adresse.
Tout à fait.
Et puis, donc ça c'est les principales adresses.
Voilà, ouais, principales localement.
Puis après, chez les cavistes, c'est possible ?
Cavistes aussi. Alors cavistes, les adresses c'est plutôt sur Paris.
Vous êtes agaçant, les vignerons locaux, c'est insupportable.
Il y a cavistes, mais sinon il y a aussi au domaine.
Oui, et après, voilà, au domaine, c'est possible, sur rendez-vous. Place. Voilà, c'est possible de venir sur rendez-vous.
Et alors, justement, donc, les contacts, on peut les retrouver sur un Facebook ou si, pour les personnes qui sont intéressées
Oui.
Ou sur un...
oui, sur éventuellement Facebook, oui.
Le nom du domaine pour vous trouver.
Alors, c'est Jérémy Choquet. Et voilà, on a un deuxième nom de domaine qui est le domaine du Chat-Huant.
Du Chat-Huant.
Voilà.
Le Chat-Huant, pourquoi ce nom de domaine par rapport à
ce que... Puisqu'avec Jérémy, tous les deux, on est passionnés d'ornithologie. Et en fait, le Chat-Huant, c'est la chouette-hulotte en vieux français. Voilà. Donc, petit clin d'œil. Pareil sur nos cuvées.
Joli nom de domaine.
On a des noms d'oiseaux. puisqu'on, voilà, tous les deux, on aime les oiseaux, on aime l'ornithologie. Donc,
Oui, vous aimez, au-delà des vignes, vous aimez la nature, enfin tout ce qui compose la nature, les animaux, les plantes.
La
parce que toi, tu fais
flore,
aussi un peu de phytothérapie.
Ouh là là, phytothérapie.
Oui, bon, bref, là on part loin, mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Le domaine du Chat-Huant à Montoux-sur-Bièvre.
Exactement.
C'est ça, merci.
Merci beaucoup.
Merci d'être venu.
Léonie va pouvoir aller se coucher.
Oui, on a une petite fille qui parle dans le studio, une petite Léonie de 8 mois. Qui est venu, qui a accompagné ses parents.
Je vais vous parler du miel, ce remède universel.
Que les sages vous conseillent loin des avis officiels.
Je vais vous parler du miel, ce remède universel.
Fabriqué par les abeilles dans un dessert providentiel.
Je vais vous parler du miel, ce remède universel.
Que les sages vous conseillent loin des avis officiels.
Je vais vous parler du miel, ce remède universel.
Fabriqué par les abeilles dans un dessert providentiel.
Les peuples du monde entier, depuis des temps éternels, ont tous confié leur santé à ces petites demoiselles. Spécialistes avérées de la chimie naturelle, les abeilles ont su créer ce remède exceptionnel.
Lavande, acacia, jasmin, lequel sera le meilleur? Tu n'as qu'à goûter le miel, c'est un miel toute fleur. J'en connais qui sont d'Afrique, des noirs comme le charbon, du Gabon, du Mozambique, toujours ils te surprendront.
Une abeille c'est malin, et c'est pas qu'elle soit chanceuse, mais c'est grâce à son instinct et son art de butineuse qu'elle distingue avec soin toutes les fleurs dangereuses en détournant son chemin des espèces vénéneuses.
J'en suis pas comme toi, hein.
Dès qu'une fleur est repérée, en huit elles vont et viennent, indiquant les lieux secrets où trouver plein de pollen. Et dans leur travail acharné, au service de la reine, elles sèment avec facilité toutes les graines de la plaine.
Antiseptique, antitoxique est bon pour les intestins. Il soigne les plaies critiques et consolide les reins. Mais outre la thérapeutique, le plaisir qui en provient est aussi gastronomique et ravit les épicuriens.
Et au passage, ça adoucit la gorge.
Bouche à oreille.
Pas tomber la crème.
Et c'était... Alors, je prends mon papier parce que Jérémy nous trouve toujours des titres de Derrière les fagots que j'arrive pas à présenter à l'antenne. C'était Bombe de balle et Ange B sur un texte de Claude Sicre.
Très rigolo.
Nous reprenons notre discussion autour du miel et de l'apiculture avec David Delaporte, vigneron. apiculteur de son état à Rilly-sur-Loire.
Apiculteur,
bien entendu. On parlait du cycle de l'abeille. Elles font quoi, les abeilles, en ce moment?
Alors, en ce moment, elles hivernent. Donc, elles sont toujours... elles ne dorment pas, contrairement aux animaux qui hibernent, qui, eux, entrent complètement en léthargie.
C'est pour ça qu'on dit hiverner, d'accord.
Tout à fait. Les abeilles, elles hivernent. Donc, elles résistent au frimas de l'hiver en se réchauffant. Elles se serrent les unes contre les autres. Elles forment une grappe qui se resserre plus ou moins selon les températures. Elles font vibrer leurs muscles et l'air pour produire de la chaleur. Et elles résistent comme ça au frimas de l'hiver. Donc les abeilles à l'extérieur de la grappe vont plonger à l'intérieur pour se réchauffer. D'autres prendront le relais. Et voilà, la reine, elle se trouve au milieu. Elle est toujours nourrie par les abeilles. Et elle reprendra sa ponte courant janvier. Après, c'est variable selon les aléas climatiques. Mais la colonie va... Là, actuellement, il y a moins d'abeilles. Il y a donc les abeilles d'hiver qui ont un métabolisme un peu spécifique. Elles ont des graisses spéciales qui... Les abeilles d'hiver vivent plus longtemps. Actuellement, il n'y a plus du tout d'œufs ni de larves dans la ruche. La reine a cessé sa ponte généralement en novembre ou décembre. Là, toujours selon les aléas météo, climatiques. Mais actuellement, il n'y a plus de ponte. Et la reine reprendra sa ponte courant janvier. Avec l'apparition des premiers pollens, elle collecte dès le mois de dès début janvier les premiers pollens, ceux de noisetiers par exemple.
Dès début janvier, d'accord, elles vont sortir.
Oui, elles sortent peu encore à cette période, mais elles commencent à collecter les premiers pollens. Le noisetier, par exemple, c'est l'un des premiers. Et puis ensuite, la colonie va se redévelopper, donc va.
Alors, moi, une chose qui m'intrigue, promis, hein, je vous laisse la parole après. Une chose qui m'intrigue, comment on peut être sûr, quand on habite dans une région avec plusieurs arbres, avec plusieurs catégories végétales, comment on peut être sûr quand on voit du miel? Ça, c'est du miel de châtaignier, ça, c'est du miel d'acacia, ça, c'est du miel de sarrasin. Comment on sait que c'est du miel de ça? Comment l'apiculteur le reconnaît?
Alors... Ça procède d'une décision, en fait, de l'apiculteur. La décision de sélectionner un miel sur une essence particulière. Donc, la condition, il faut, pour qu'on puisse faire une sélection, avoir dans notre environnement des fleurs qui sont très attractives pour les abeilles. Donc ça, c'est la première condition. À partir du moment où ces fleurs sont très attractives, l'abeille va se spécialiser dessus. C'est-à-dire qu'elle ne va pas aller voir ailleurs, c'est à un moment donné, un instant T, pendant un certain nombre de jours, la floraison qui va être la plus rentable pour elle. Donc là, dans notre région, on peut sélectionner sur l'acacia, le châtaignier. Alors, il y a des plantes cultivées aussi sur lesquelles on peut sélectionner, hein, le colza, le sarrasin, enfin, le tournesol, il y en a plusieurs. Sinon, dans les arbres, ici, moi, je récolte du miel d'acacia, de châtaignier, de tilleul, pour les arbres. Et après, je fais d'autres sélections. On peut éventuellement sélectionner sur l'aubépine ou différentes fleurs qui sont très rentables pour les abeilles. Alors, le principe, il est simple, en définitive. Les abeilles commencent à amasser, les premières grosses mielées commencent en avril. Elles commencent à amasser beaucoup de miel qui proviennent de différentes fleurs. Donc là, on fait généralement à cette saison ce qu'on appelle un miel toute fleur de printemps. Et à partir du moment où les espèces que l'on veut sélectionner commencent à fleurir, il faut un petit peu l'anticiper. On va extraire les hausses qui sont déjà posées sur les ruches. Les hausses, c'est les étages supplémentaires qu'on pose et qu'on va... ce sont des demi-cadres, en fait, mm-hmm. qu'on pose sur le corps de ruche. Et ce sont les cadres qu'on va récolter.
D'accord.
Donc là, en fait, pour la sélection, c'est assez simple. On va, s'il y a des hausses qui sont déjà emplies de miel, les extraire. Et un tout petit peu après le début de la floraison de l'espèce qu'on veut sélectionner, on va apposer une hausse vide. Et on va la retirer un petit peu avant la fin de la floraison. Et de cette façon, s'assurer que
C'est vraiment que l'espèce en question qui a été...
Voilà. Alors que, disons, en très très grande majorité, et donc avec... on va s'assurer de récolter un miel avec toutes les caractéristiques liées à la floraison en question.
D'accord.
Est-ce que l'abeille peut faire un grand nombre de kilomètres pour aller chercher...
Oui, alors on parle d'une aire de butinage moyenne de 3 km, mais quand on est dans un biotope qui offre de bonnes ressources, généralement elle va moins loin. Et ça peut aller au-delà de 3 km en cas de disette, si vraiment les ressources se raréfient. L'abeille peut aller un petit peu au-delà de 3 km. Mais...
Alors, moi, je suis tombée de l'armoire il y a quelques mois quand j'ai appris que le miel, que je croyais, bien naïf que je suis, venir de toutes les régions de France, venait beaucoup de l'étranger et qu'il y avait même du miel de Chine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'importer du miel, du coup, du miel industriel? Enfin, voilà, c'est quoi la différence entre un miel artisanal et un miel industriel? Comment on peut faire du miel industriel?
Il n'y a pas beaucoup de miel dans le miel chinois, en fait. Hein. C'est ce que David
c'est ça, miel industriel, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est très souvent du miel frelaté.
Sirop de sucre.
Après, je crois que c'est le troisième produit, le miel le plus trafiqué sur le marché, après l'huile d'olive aussi, qui est très, très sensible. On importe plus de 50% de notre consommation en France. Et c'est dommage parce qu'on a perdu beaucoup d'apiculteurs ces dernières années et une grande partie du cheptel aussi, enfin une partie importante du cheptel. Et c'est dommage parce que la production française ne fournit que 50%, à peine 50% de la consommation.
Mais elle pourrait fournir plus. Qu'est-ce qui explique qu'on soit obligé? Est-ce que c'est une obligation d'importer ou est-ce que c'est tout simplement parce que c'est moins cher?
Alors c'est pas forcément une obligation. Il pourrait y avoir plus d'apiculteurs, mais le métier devient actuellement tout de même un petit peu difficile. On souffre de la simplification de nos paysages. Les abeilles ont quand même beaucoup moins de ressources, et quand je dis les abeilles, ça concerne aussi les apiculteurs. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui on passe autant de temps à se préoccuper de la survie de nos abeilles que de la production de miel. C'est devenu un petit peu difficile. Il pourrait y avoir plus d'apiculteurs en France et on pourrait changer un peu de paradigme et changer...
C'est-à-dire que pour qu'il y ait un apiculteur, il faut qu'il y ait des abeilles
Il faut qu'il y ait des ressources pour les abeilles, il faut qu'il y ait un biotope.
Il faut qu'il y ait de la nourriture, une diversité aussi.
Et c'est une réalité que cette diversité disparaît. Mais en même temps, c'est quand même les abeilles qui permettent aussi la floraison,
la pollinisation.
La pollinisation, pardon, c'est grâce aux abeilles aussi que ce biotope, c'est un espèce de cercle sans fin.
Oui, mais dès lors qu'on a de grands espaces en monoculture, les abeilles, il n'y a même plus d'adventices dans ces grandes cultures. Donc là, il n'y a plus de biodiversité. Il y a des espaces, là, dans notre région, hein, pas très loin, si on parle de la Beauce, ce sont des déserts pour les abeilles.
Il n'y a pas de haies, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas grand-chose. L'abeille n'est pas le seul
pollinisateur. Pour être en bonne santé, elles ont besoin de beaucoup de diversité. Beaucoup de biodiversité, elles ont besoin de ressources variées. Et donc ça, c'est problématique. L'autre problème, c'est que actuellement le miel, quand on est producteur et quand on vend le miel en gros, on le vend à des prix extrêmement bas. C'est difficile de dire. Et c'est directement lié à la question des importations, parce que on importe du miel de l'étranger... très très peu cher, quoi. Aujourd'hui, un apiculteur, quand il vend du miel en vrac, en fût de 200 litres, il le vend 4 à 5 euros le kilo, quoi, pour certains miels.
Donc c'est une activité qui est difficilement viable.
C'est très difficile. Et le vice, c'est que ça pousse aussi l'apiculteur à avoir une démarche productiviste, ce qu'on ne recherche pas nécessairement. Enfin, je veux dire, moi, je ne fais pas l'apiculture pour ça. J'ai pas envie d'exploiter des ruchers de 50 ruches et de transhumer mes ruches sans arrêt. Bon, voilà, moi je travaille sur des tout petits ruchers, de 10 à 15 ruches, je trouve ça suffisant. C'est bien, on parlait de la concurrence avec les abeilles sauvages en amont de l'émission, mais là voilà, on limite aussi ce genre de problème, on n'impacte pas les autres pollinisateurs, on ne sature pas les biotopes en cas de maladie, de virus ou ce genre de choses.
Ça se transmet moins facilement.
Donc voilà, je pense que beaucoup d'apiculteurs, et ça doit concerner aussi les agriculteurs qui exploitent des fermes immenses et qui ne voient plus tellement de sens à faire ça. Et voilà. Beaucoup d'apiculteurs n'aspirent pas à faire de la production comme ça en masse. Et, voilà. Mais aujourd'hui, en vivre, c'est devenu difficile.
On est comme beaucoup, tous les produits en agriculture, finalement, face au prix correct de rémunération des producteurs.
Est-ce que s'il n'y a plus d'apiculteurs... les abeilles vont se retrouver en difficulté.
Alors, étant donné que là, on attaque un sujet qui va demander un certain développement, je vous propose de faire le coup de gueule qui n'est pas un coup de gueule de Yann. C'est l'heure de Yann. Il faut que Yann s'exprime dans cette émission, parce que sinon, Yann va mal.
De bouche à oreille.
Les gens ne savent pas ce qui est bon. Les gens ont un trou dans le ventre et ils remplissent ce trou de merde.
Il n'y a rien à faire, c'est comme ça.
Bon bah alors bonsoir à tous ou rebonsoir parce que j'ai pas trop parlé aujourd'hui parce que le mois dernier je me suis fait enguirlander à la fin de l'émission parce que j'ai coupé la parole à tout le monde. Effectivement j'ai réécouté l'émission, c'était inécoutable pour moi, ma petite famille m'ont dit papa t'entends beaucoup à la maison, c'est pas la peine quand t'entends à la radio, pareil là.
Bon ouais, j'étais à la radio,
mis les enfants dans leur chambre, tout le monde est parti se coucher, tout le monde était en colère jusqu'à aujourd'hui et puis je me suis dit que bon... Comme à 12h30, j'avais toujours pas écrit ma chronique, et ben même après quelques essais, j'avais tout effacé, c'était mauvais, c'était pas drôle, bon un peu comme maintenant quoi. Et puis là, vous allez vous imaginer que d'un seul coup, j'ai eu une fulgurance et que je me suis mis à écrire un texte d'une rare qualité, hein, de celle dont moi et moi-même sommes capables de temps à autre, c'est-à-dire une fois par mois et à ce même micro. Lequel mériterait d'être réparé, cela dit en passant, Jérémy. Eh bien, aïe.
Jérémy se venge. Il ne parle pas, mais il a d'autres moyens d'expression.
Eh bien, point de fulgurance, mes pensées étaient pourtant libres de toute contrainte, puisque je savais qu'il ne me restait plus que le ménage, la lessive et le repas du soir à faire jusqu'à 16h. Et c'est là que j'ai pensé au sujet de ma chronique, qui, je vous rassure, n'a rien à voir ni avec le ménage, ni avec la lessive. Hein. Cela serait relativement inintéressant, dans la mesure où je ne suis pas un spécialiste dans ces matières, mais un simple amateur. Et d'ailleurs, ma femme me rappelle souvent à quel point j'ai la fâcheuse tendance à mettre trop d'eau sur la serpillière quand je lave le parquet, et que, pour ce pull, c'est 30 degrés, programme laine, c'est pas dur, ça fait 15 fois que je te le dis. Bon, d'accord. Alors... Non, je voulais plutôt aborder le repas de ce soir parce que, pour une fois, je ne vais pas passer les 4 premières minutes, il ne me reste plus que 3 d'ailleurs, à râler. Surtout que je râle sur la bouffe et qu'à 2 semaines de Noël, quand je pense à tous ceux qui n'ont pas grand-chose à manger, je me dis qu'il faut parfois se retenir. Alors, ce soir, c'est poulet. Alors, chez nous, un poulet, ou plutôt 2 poulets, hein, parce qu'on est 5 et que mon cadet est un peu goinfre, donc 2 poulets, hein, c'est 2 repas minimum. Puisqu'un jour, on mange les cuisses et les ailes, et l'autre, et qu'on cuisine les blancs différemment un autre jour. Alors, ce soir, c'est les cuisses et les ailes. Alors, je découpe donc mes poulets. Hein, on prend toujours des poulets entiers. Je réserve les blancs dans une boîte dans le frigo pour après-demain soir. Je vous donnerai la recette au mois de janvier. Et je me retrouve donc avec mes cuisses, mes ailes et mes carcasses. Les carcasses que je hache grossièrement avec un gros couteau. Attention, la recette commence maintenant. Elles vont servir de base, ces carcasses, pour ma sauce. Il me faut pour cela une carotte, un oignon et 2 gousses d'ail. Vous suivez ? Prenez des notes. Je fais chauffer de l'huile dans le fond d'un grand faitout et quand celle-ci devient fumante, je vais vous voyez maintenant parce que c'est comme ça que j'ai écrit et j'ai même relire sans corriger en même temps.
Il ne te reste plus qu'une minute.
Vous y ajouterez les carcasses et les pincerez. Alors donc, lorsqu'elles auront une belle couleur bien dorée, foncée, croûtée même, vous les débarrasserez et y jetterez les carottes découpées en rondelles, l'oignon et l'ail.
Mais déjà, c'est un scandale. Mélanger des légumes à de la viande, c'est scandaleux.
Il y a du beurre. Pour la sauce. Non, pas encore. Et vous attendrez qu'elles obtiennent une belle coloration. Vous débarrasserez l'excédent de matière grasse, réincorporerez les carcasses et ajouterez de l'eau en petite quantité en décollant bien les sucs du fond du récipient avec une cuillère en bois. Cuisson 25-30 minutes, ça c'est la sauce. Vous la laissez réduire sur le coin du feu. et à côté. Vous allez faire revenir vos cuisses dans un autre faitout avec un peu d'huile et un peu de beurre. Quand celui-ci est venu à coloration, vous mettez les cuisses dedans, vous faites bien dorer, vous ajoutez les carottes découpées en rondelles. Encore une fois, mélange que Alice n'apprécie pas, mais c'est pas grave. Des oignons coupés en dés, et vous allez mouiller petit à petit avec le jus de volaille qu'il était tranquillement sur le coin du feu, vous aurez suivi. Vous faites cuire tout ça pendant 30-35 minutes à feu doux, et vous servez des bonnes petites pommes de terre à côté, cuites à l'eau, que vous mettrez dans votre plat. Moi, j'ai ajouté des petits pois de la saison dernière dans ce ragoût, et c'était excellent. Ouais, absolument. Et puis voilà. Bon appétit à tous. Vous voyez, j'ai pas trop râlé, j'ai pas été trop long, ça a été.
C'est bien, voilà. On peut reprendre.
Merci.
Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail, c'est de mon indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
On reprend donc notre conversation autour du miel. Alors, Véronique, tu demandais.
J'ai oublié ma question, hein, quand même, c'est malin.
On n'a plus d'apiculteur...
Oui, voilà, c'est ça, parce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que ça marche dans l'autre sens?
Alors, on va reposer la question pour les auditeurs qui nous rejoignent. Ouais. Est-ce que sans apiculteur, on perd nos abeilles
et vice-versa?
Alors, sans apiculteur, effectivement, je pense que les colonies d'abeilles, on arriverait vite à un effondrement du nombre de colonies d'abeilles, oui, c'est certain. Aujourd'hui, les abeilles font face à différents maux et sans le soin des apiculteurs, ce serait vraiment difficile et problématique.
On peut dire que le métier d'apiculteur il existe depuis que l'humanité existe, quoi. C'est-à-dire que ça a toujours fonctionné comme ça.
On n'a pas toujours élevé des abeilles, mais déjà au Paléolithique, on prélevait le miel des colonies, sur des colonies sauvages. Mais effectivement, aujourd'hui, les abeilles ont des maladies qu'elles n'avaient pas avant. Et puis, on a parlé tout à l'heure là, de l'appauvrissement de nos biotopes. Ça impacte très, très fortement la santé des abeilles, sauvages et domestiques.
Et alors, est-ce que les abeilles sauvages, du coup, produisent un miel qu'on peut récolter, qui est récolté?
Non, parce qu'elles ne vivent pas dans des colonies aussi populeuses. Donc... Elles ne produisent pas de miel en quantité. Elles sont néanmoins très très utiles. Elles sont toutes pollinisatrices et elles peuvent polliniser des espèces de fleurs que les abeilles dites domestiques, avec des guillemets, ne peuvent pas polliniser.
Oui,
certaines abeilles sont inféodées à.
C'est pas les mêmes variétés hein, d'abeilles, c'est ça?
Non, il y a près de 1000 espèces d'abeilles sauvages en France.
Et l'abeille d'élevage, c'est une seule variété d'abeille ou il y en a plusieurs?
Il y a plusieurs races, en Occident, la race qu'on élève, c'est Apis mellifera, avec différents phénotypes.
Il y a plusieurs variétés d'abeilles. Yann?
Moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est sur une ruche, vous disiez qu'il y avait à peu près 40-45 000 individus, sachant qu'une abeille, si elle vit 20-25 jours, a produit à peu près, d'après ce que j'ai entendu dire, l'équivalent d'une cuillère à café de miel. Donc, vous avez récolté combien de miel par ruche, dans une ruche en bonne santé, bien évidemment?
Alors, l'abeille, elle vit 20 jours en dehors de la colonie. Avant ça, elle est restée 20 jours dans la colonie. Alors, quand je dis 20 jours, c'est en période d'activité intense pour les butineuses. Son activité de butineuse peut ne durer qu'une vingtaine de jours en période d'intense miellée. Les abeilles d'hiver, elles, là, vivent beaucoup plus longtemps. Les abeilles sortent de la ruche à peu près au 20e jour de leur vie pour devenir butineuses. Avant ça, elles sont passées par différents métiers, différentes activités selon leur âge.
Sur la
quantité de miel récolté, c'est très très variable. Et ça dépend beaucoup des aléas climatiques. L'année dernière, par exemple, c'était une très très mauvaise année pour les apiculteurs en termes de production de miel. La sécheresse a fait que les fleurs ont produit peu de nectar, beaucoup de fleurs ont desséché et les productions de miel ont été très très faibles. Cela dit, une colonie forte au printemps peut... au mois de mai, avoir produit déjà 30 kilos de miel.
Ah, quand même.
L'année dernière était une très très bonne année, et sur des miellets d'acacia, beaucoup de ruches ont produit la miellet d'acacia l'année dernière, dans mon secteur, a duré 14 jours. En 14 jours, certaines colonies, alors j'ai des abeilles, j'ai des ruches 12 cadres qui sont un petit peu fortes, mais certaines colonies ont produit au-delà de 30 kilos de miel en 14 jours.
Ah ouais.
Donc sur de l'acacia, on en parlait tout à l'heure, on peut sélectionner, c'est une fleur très rentable là pour les abeilles. Ouais.
Du coup, je reviens juste à cette problématique d'importer du miel et ce fameux miel frelaté. Il y a moins d'apiculteurs en France parce que moins de variétés végétales. Du coup, comment ça se passe à l'étranger ? C'est qu'il y a plus de variétés à l'étranger ou c'est qu'on est moins regardant
Alors,
sur...
En France, ce n'est pas seulement dû au fait qu'il y ait moins de variétés végétales. Ce que je voulais dire, c'est que c'est moins facile et pour les abeilles à partir du moment où on a un paysage très abîmé et une biodiversité... amoindri. Donc ça, il est certain que là, c'est plus difficile. Maintenant, il y a plein d'autres raisons qui rentrent en ligne de compte. Hein. Je parlais du prix de vente du miel qui est...
extrêmement bas.
Bas, mm-hmm. Et c'est dû au fait que les miels d'importation soient très peu chers. Donc il y a ce problème-là, et je pense que ça, c'est le problème majeur.
C'est le prix...
Ouais, dans les alternatives, Le syndicat d'apiculture UNAF là, réclame, et tous les apiculteurs réclament plus de détails sur l'étiquetage du miel et la traçabilité du miel. Ça a été refusé par le Conseil constitutionnel en France.
Ah tiens.
Et ça a été refusé aussi par l'Europe. Donc, alors je sais pas, certainement...
Ils prennent plein de bonnes décisions de façon, ces gens-là.
Pourtant, la traçabilité existe. Hein, les conditionneurs... ou une traçabilité, mais on refuse jusqu'à maintenant d'indiquer la provenance des miels sur les étiquettes, ce qui est vraiment dommage. Les apiculteurs de France aimeraient que le consommateur ait accès à ces informations.
Mais c'est normal, c'est une culture comme une autre. Donc il n'y a pas de raison, à partir du moment où on le fait pour des légumes, des fruits...
Voilà. Et dans les miels pas chers qu'on achète en supermarché, je pense que si on avait toutes ces informations sur l'étiquette, je pense que beaucoup de consommateurs hésiteraient à acheter
ce type de
le miel en question, même s'il est très peu cher.
J'ai découvert dans un livre, ça va vous surprendre, de cuisine végane, et j'avais été extrêmement surprise, que les véganes n'utilisent pas le miel. Oui, parce que je n'y avais pas pensé, ça vient de l'animal. Vous êtes confronté à la problématique des véganes qui font haro un peu, surtout... culture animale avec...
Personnellement, j'ai pas été interpellé directement, mais effectivement, j'ai forcément eu écho des discours que tiennent les véganes sur l'activité d'élevage des abeilles et la consommation du miel. Moi, je trouve ça assez effrayant, je trouve qu'il y a de très bonnes idées dans ce courant de pensée. Alors, je pense qu'on peut le qualifier d'idéologie, hein, parce qu'il s'agit de ça. Moi, je suis jamais très à l'aise avec les idéologies. Donc, il y a des choses qui sont tout à fait sensées et peut-être utiles aussi à entendre. En revanche, il y a des discours qui me semblent assez extrémistes. On parle d'univers concentrationnaire de la ruche, etc. Donc, rien que le lexique, moi, me mettrait mal à l'aise. Et voilà.
Quand même pas exagéré, hein. c'est pas non plus les élevages bovins qu'on évoquait le mois dernier, ça n'a rien à voir avec ça, quoi. C'est pas de l'exploitation animale.
Dans la nature, les abeilles vivent en colonie. Hein.
Exactement.
Elles cherchent pas à s'aménager plus d'espace, avoir chacune leur salon.
Alors, vous reproduisez leur essaim, les ruches reproduisent l'essaim naturel.
Oui, alors après... dans la nature, généralement, les colonies sont un petit peu plus petites. Mais là, on leur offre de la place et on s'occupe d'elles, donc les colonies profitent un petit peu plus. Il s'agit effectivement d'une exploitation. Hein,
mais est-ce que manger le miel, c'est...
une activité d'élevage, mais...
Ouais. Mais est-ce que c'est leur retirer le pain de la bouche ? Faut de récolter leur
Alors
miel ?
Alors non, on s'attache toujours à leur laisser suffisamment de provisions pour l'hiver. Alors après, il y a plein de types d'apiculture. Et l'apiculture intensive, ça existe aussi. Elle n'est pas plus vertueuse que l'agriculture intensive. Il y a aussi des travers, c'est certain. Mais généralement, on se préoccupe quand même de la survie de nos colonies. Et donc, effectivement, on laisse suffisamment de ressources pour l'hiver afin que les colonies puissent...
puissent survivre.
Survivre après avoir prélevé le miel. Ouais.
D'accord. Véro, tu as une question ?
Oui, en fait, c'est sur les qualités gustatives et les propriétés des miels. C'est vrai qu'en plus, il y a un choix quand même assez extraordinaire.
Il y a beaucoup de variétés.
Il y a beaucoup de variétés dans les miels. Et donc, par exemple, il paraît que le miel de thym, c'est vraiment super. On peut faire une cure avant l'hiver. C'est, d'ailleurs, comme la plante, le thym, c'est quand même anti-inflammatoire. Le romarin, pareil, etc. Et alors, tout ça, je ne sais pas, est-ce que ça s'explique par la propriété justement de la plante ou il y a aussi une transformation qui fait que ça a des vertus soit soignantes, soit apaisantes, enfin voilà. Oui.
Alors ça s'explique par les propriétés de la plante, oui, il n'y a pas de transformation, en tout cas faite par l'homme. Donc les abeilles récoltent du nectar. Le nectar, c'est principalement de l'eau, qu'on trouve au fond des corolles des fleurs. Et ensuite, il y a un travail enzymatique. Les abeilles élaborent ce nectar en miel, mais il n'y a pas du tout d'intervention humaine. Donc après, il y a énormément de diversité dans les miels. Tous ont des vertus, et plein de vertus. Et ça dépend effectivement des variétés florales. Ouais.
Enfin, moi, j'ai testé le cataplasme de miel, de thym. Ça marche.
Je te fais confiance.
Il est beaucoup utilisé pour la cicatrisation. Certains chirurgiens utilisent le miel de thym pour cicatriser.
Est-ce qu'il y a un miel qu'on peut considérer comme la Rolls du miel, par le goût, par ses propriétés, par sa finesse?
À mon avis, non.
C'est relatif.
Ouais. Oui, pas au subjectif. Je pense, ouais. C'est complètement subjectif.
Ouais. Mais il y a eu un...
Alors, il y a des miels au Yémen qui sont... qui sont extrêmement cotés, je ne saurais pas vous dire le prix, mais qui sont vendus très cher. Les Russes sont gardés avec des hommes en armes.
Mais c'est la spécialité du Yémen, ça c'est normal.
Bon, alors après, il y a aussi certains miels sur lesquels il y a des fantasmes. Des trucs, bon. Mais après, je pense que c'est complètement subjectif.
Et c'est pareil sur le miel français. Ah, j'ai coupé la parole à Marie sur le miel français. Voilà, que ce soit acacia ou après, il aura une texture différente, une couleur différente. Oui. Mais on pourra toujours le déguster à la petite cuillère, en fait, le mettre dans le café, le thé, que sais-je.
Oui. Sur les tartines avec du beurre.
C'est rarement mauvais, le miel. J'en ai rarement goûté de vraiment mauvais. Plus ou moins bon, oui, certes, mais c'est rarement mauvais. Après.
Juste sur la question des arômes, est-ce que justement on retrouve dans les miels de thym, d'acacia, etc., on retrouve en fait l'arôme de la plante, du nectar en fait, dans le miel systématiquement ou pas ?
Alors systématiquement, non. Non. C'est parfois même surprenant. Bon, après, quand on connaît les miels, quand on a goûté un miel de tilleul une fois, on sait le reconnaître parmi plein d'autres miels. C'est valable aussi pour l'acacia. Alors après, ils ont chacun aussi leur aspect, leur texture. L'acacia va être liquide, le miel de tilleul, il en sera autrement. Bon, mais c'est vrai que ça renvoie pas toujours à la plante. Alors pour l'acacia, c'est vrai que quand on a le palais un petit peu délicat, on retrouve... dans le goût, un petit peu l'odeur de l'acacia, et on peut, en ayant une fleur d'acacia dans les mains, ou sous un acacia, en sentant une fleur, on pourrait s'imaginer effectivement le goût du miel.
Mes camarades attablés, je suis absolument désolée. J'aurais bien voulu qu'on aborde la question des recettes au miel.
Oui, c'est passionnant. Il faudrait réinviter parce qu'on a plein de questions.
Mais voilà, mais l'heure tourne et c'est l'heure des belles choses,
des bonnes choses.
Véro,
il faudrait pas qu'on zappe ma chronique.
Ce serait dommage. Dis-nous qui vient raconter ces bonnes choses
aujourd'hui. Nous allons écouter Gaëlle, qui a une façon tout à fait délicate de parler de son enfance bretonne. Se souvenir des bonnes choses.
Moi, j'ai complètement arrêté la cuisine. Je n'en fais quasiment plus aujourd'hui. Par contre, quand j'étais petit, j'adorais faire de la pâtisserie avec ma mère. On prenait notre temps. Je viens d'une famille bretonne. Donc, on met beaucoup de beurre salé partout. Donc, je me souviens de l'odeur du beurre salé partout dans la baraque. On faisait beaucoup de farce. Je viens d'une famille d'agriculteurs aussi, donc on faisait pas mal de gâteaux aux pommes, des toutes petites pommes qui compotées sont très 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 bonnes, très sucrées, qui sont immangeables comme ça, mais crues, mais quand elles sont cuites, elles sont délicieuses. Et donc le phare c'est le grand truc, alors sans pruneaux, hein. Chez moi il n'y a pas de pruneaux, mais par contre il y a beaucoup beaucoup de beurre. Ça caramélise et du coup c'est vraiment une religion chez moi, le phare. Avec mon frère et ma sœur, on se battait pour manger les bords qui sont un peu plus caramélisés. Et du coup j'adorais ces moments-là de pâtisserie avec ma mère, à tel point que j'invitais mes copains à faire ces moments pâtisserie. On y passait des après-midi entiers. Quand j'y repense maintenant, étant donné que j'ai complètement arrêté la cuisine, ça me paraît super loin et j'ai appris plein de choses que j'ai complètement oubliées. Et du coup, je voulais devenir pâtissier. Sauf que je voulais être aussi... Je viens d'une famille très catholique, on passait beaucoup de temps à la messe et on s'ennuyait pas mal à la messe. Alors je voulais aussi être curé pour dynamiser un petit peu la messe. Et donc je voulais être curé et pâtissier en même temps. Ça paraît pas impossible au final. La pratique de ma mère de la cuisine, et la cuisine bretonne en particulier, elle fait des crêpes. C'est une recette qu'elle tient de sa mère, qui évidemment la tient de sa mère et tout ça. Elle était infirmière, elle a demandé à beaucoup de ses anciennes, de ses patientes, comment elle faisait les crêpes. Elle a mélangé toutes les recettes pour arriver, pour moi, à ce qui est la meilleure crêpe possible. Alors, je viens du Finistère, on n'a pas de différence entre... On appelle des crêpes salées et des crêpes sucrées. Les crêpes au blé noir et les crêpes au froment. Il n'y a pas de galettes chez moi. Les galettes, ça va être dans le Morbihan ou dans les Côtes d'Armor ou même en Finistère Nord. Hein. Vraiment, moi, je suis du Finistère Sud. Et les galettes, c'est un peu plus épais. Les crêpes de ma mère et celles de ma grand-mère, elles sont très très fines. Elles croustillent. On appelle ça, quand elles sont bien cuites, on dit qu'elles sont crases. C'est un mot breton pour dire fin, bien cuit. Et du coup, elles sont croustillantes et elles fondent dans la bouche. Et évidemment, dessus, il y a beaucoup de beurre salé. Le beurre salé, c'est pour nous une religion, quoi. On en met partout. Et chez moi, on cuisine pas le couign amande, mais on en mange beaucoup. Je sais pas si vous connaissez la recette du couign amande, c'est 3 paquets de beurre et 3 kilos de sucre pour à peu près une part. Les moments de crêpes, c'est des moments en famille. C'est une dizaine à table, la mère ou la grand-mère qui fait à manger pour tout le monde, chacun son tour. Et c'est des moments d'échange et vraiment tout le monde autour de la table. Chacun, on attend son tour, on mange sa crêpe, on la déguste, on la dévore. Et après, il faut attendre que tout le monde soit servi. Et du coup, c'est tout le monde a la même enseigne. C'est des moments d'enfance très, très forts. Mon grand-père s'était engueulé avec ma grand-mère. Qu'on ne connaît pas forcément les détails de la dispute. On est tous à table, on est une quinzaine à table. Et elle lui demande « Alors, qu'est-ce que tu veux sur ta crêpe ?» Alors, évidemment, il y avait ce qu'on voulait. On pouvait juste mettre au beurre. Moi, ça pouvait être au lard ou la complète. Évidemment, le trio magique, jambon, œuf, fromage. Mon grand-père, lui, dit « Bah, mets ce que tu veux dedans !» Et alors, du coup, elle a vraiment mis ce qu'elle voulait dedans. Donc, elle a mis de la banane, du chocolat, du jambon, de l'œuf. Et du coup, évidemment, il n'a rien vu. Elle lui a balancé ça sous son nez, il a tout mangé, il a rien dit à personne. Et derrière, c'est elle qui nous a expliqué qu'elle avait fait ça, mais lui, il en a jamais parlé. C'est très très bon. Ça, c'est des super souvenirs de toute cette famille qu'on se retrouvait quelques dimanches par mois, tous ensemble autour de la table pour ça. Une odeur de crêpes, ça me suivra partout.
Salut, bienvenue à la crêperie bretonne, Kenavo les poteaux.
Ça m'a donné envie d'aller en Bretagne manger des crêpes.
Sur ces souvenirs bretons de crêpes que nous clôturons l'émission. Merci ouais, Véro pour
merci
tu as le don d'aller nous chercher toujours des gens qui ont des trucs toujours super intéressants, qui le disent bien.
Mais oui.
Mais peut-être sont-ils bien guidés pour le dire.
Oh, c'est charmant. Mais c'est surtout que
c'est l'esprit de Noël
que...
qui ouais, arrive.
Tout le monde est gentil ouais. ce soir, c'est chouette. Ouais. Hein. Ouais, ouais. Ça va pas durer. Hein.
Non, c'est l'esprit de Noël, ça ne dure qu'un
c'est
temps.
C'est le calme avant la tempête.
C'est ça.
Non, je crois que c'est l'appel à l'enfance. Je pense que ça adoucit les mœurs, c'est comme la musique.
C'est ça, ouais. Et ça réveille des tas de choses jolies. Merci David d'être venu nous parler d'abeilles et de miel. Je veux dire, comme chaque fois, c'est hyper frustrant parce qu'il faudrait que ça dure deux heures.
Ouais, on a plein de questions encore.
Voilà, et puis surtout, on n'a pas parlé cuisine au miel.
Ben oui.
Et c'est bien dommage. Ouais. Merci, chers chroniqueurs attablés.
Merci.
Merci beaucoup.
Bonne... Yann, je t'en prie. Ah non, tu allais...
J'allais dire merci.
Tu as tellement parlé le mois dernier que c'était à notre tour. Joyeuse ripaille à tous.
À l'année prochaine.
Et puis on se retrouve en janvier avec normalement un invité étoilé. À bientôt à la radio, comme dirait Véro.
Bah oui.
Est-ce que j'éteins, moi... Je sais pas, hein. Non, je pourrais éteindre. Non, mais est-ce qu'il faut éteindre, là, vous croyez, vous?
Ben, ça dépend. Si c'est un plat qui se mange brûlé, il faut laisser encore un peu.